Souchonnade.
Souffler sur les braises.
Johan et Mehdi, syndicalistes d'élite, ont mené une lutte antiraciste dans leur entreprise, la STEF, en Vendée, qui a fini par les licencier jusqu'à organiser une manifestation hostile quand l'inspection du travail les a réintégrés. Depuis, ils font des tours de bus à La Roche-sur-Yon. Jacques Grondin. C'est un ouvrier vendéen, fils et petit-fils d'ouvrier vendéen. Un géant de 50 ans qui fait près de 2 mètres et pèse 120 kilos. Une force de la nature qui trimballe des quartiers de viande 8 heures par jour depuis 30 ans dans l'entreprise STEF, leader européen du transport du froid aux Essarts en Bocage, 200 salariés en Vendée. À la fin des années 2000, l'entreprise fourgue à Jacques un jeune à former entre les pattes. Un ouvrier vendéen, fils et petit-fils d'ouvrier vendéen. Il s'appelle Johan Jadot. C'est un petit merdeux, pas costaud du tout, fin comme une allumette, fan du Puy du Fou, comme toute sa famille. Au repas du dimanche, tirades enflammées pour Philippe de Villiers et blagues racistes du donton se succèdent. Le nouveau président, Nicolas Sarkozy, fait rêver Johan aussi. Séduit par son charisme, il a distribué des tracts pour lui. Jacques Grondin en a vu d'autres, des rigolos qui parlent de politique, se prennent pour des artistes, font des selfies, ne veulent rien au boulot. Ça ne rate pas. Comme les autres, Johan se plaint du matin au soir.
« Putain, mais c'est pas compliqué, bordel !»
gueule Jacques sur les quais quand Johan laisse tomber un quartier de bidoche de 100 kilos, trop lourd. Alors Jacques prend le quartier d'une seule main, se le jette sur l'épaule et fait le travail à la place du gamin. Bon à rien. Les jeunes veulent plus bosser. Qu'ils aillent faire des selfies avec Sarkozy.
Tondeuse tractée. Ça m'a fait un truc.
Johan Jadot, 14 juillet 2021.
Ça m'a fait un truc quand j'ai vu Jacques chialer comme un gosse. Ce gros balèze qui m'avait formé à la dure, une brute de taf mais un amour de mec qui avait jamais ouvert sa gueule, il me chialait dans les bras comme un bébé. Il était pété, Jacques. Son épaule marchait plus. 30 piges à soulever des tonnes de viande tous les jours. Il était cuit.
Jacques pleurait. Pas parce que son corps était brisé, ça, son père et son grand-père l'avaient vécu avant lui. C'était la loi du genre ouvrier. Il le savait. Jacques pleurait parce que la boîte le lourdait, sèchement, pour inaptitude, sans une thune, à 50 piges. La boîte à laquelle il avait tout donné, sans jamais l'ouvrir, pendant 30 ans.
Il était à deux doigts de se foutre en l'air. Voir un colosse comme ça dans cet état, ça m'a fait un choc.
Un tel choc que Johan se décide à de l'inédit. Monter dans les bureaux pour alerter la direction. Lui fait partie de la France qui se lève tôt. De la génération Sarko, celle du gagnant-gagnant avec l'employeur. Sa direction et lui ont les mêmes intérêts. Chaque jour, il redresse le pays, travaille plus pour gagner plus et combattre le cancer de la cistana. Nul doute que son patron va mettre un terme au calvaire de l'ami Jacques. Stupeur, l'employeur s'en tape. L'employeur déclare à Johan que l'épaule détruite de Jacques n'a strictement rien à voir avec son travail. L'employeur s'est renseigné. Chez lui, dans son jardin, Jacques passe la tondeuse. Une tondeuse tractée, précise la direction. C'est lourd, une tondeuse tractée. Ça casse l'épaule. Le travail n'a rien à voir là-dedans. Monsieur Grondin est inapte. Au revoir, monsieur Jadot. Et ne traînez pas trop, c'est l'heure. Pendant ce temps, Mehdi Keshirem conduit des poids lourds en intérim. Fils d'ouvrier et de femme de ménage, lui vient de...
quitter la misère du Nord pour trouver un joli cadre de vie. En m'installant en Vendée, je voulais être peinard, tout sauf militer.
C'était sans compter sur un formateur syndical de choc, Loïc Lejallet, directeur de STEF Vendée.
Ça faisait des années à mon arrivée que je bossais dans le transport. Donc je connaissais parfaitement la convention collective. Et partout où j'avais bossé, elle avait été respectée. En Vendée, on me volait la majoration de mon taux horaire, mon 13e mois, on me faisait faire des tâches en dehors de ma fiche de poste. J'ai réclamé mes droits 4 fois en 18 mois d'intérim. Les yeux dans les yeux, le directeur me répondait « Et si on ne fait pas ça ?» Syndicalement, c'est lui qui m'a formé. Il a fait de moi un militant.
Et de Johan et Mehdi, des frères. Ne traînez pas trop, monsieur Jadot, c'est l'heure. Monsieur Jadot n'a pas traîné, en effet. Monsieur Keshirem non plus. C'est qu'il était tombé de haut le bientôt camarade Johan Jadot. La direction avait persisté à ignorer tous ses appels du pied pendant que Jacques Grondin persistait à pleurer comme un gamin.
L'histoire de Jacques, je ne l'ai jamais digérée.
Dit aujourd'hui sobrement l'ex-fan de Nicolas Sarkozy. Pour faire justice à Jacques, pour faire justice à Mehdi, ces deux conducteurs de poids lourds, tous deux titulaires d'un BEP, mettent en place un syndicat CGT en 2013, dans la filiale vendéenne qui revendique alors comme une fierté locale de posséder le taux horaire le plus bas du groupe STEF. Ensemble, Johan et Mehdi multiplient les conquêtes sociales, arrachent la première place aux élections professionnelles. Deux syndicalistes d'élite, bâtis sur une tondeuse tractée et un 13e mois floué.
S'engager par amour.
L'étincelle Loïc Le Jallet aura donc embrasé la plaine. Mais il y a plus.
Au fond, pourquoi on s'engage ?
Rêve un peu Johan, ses yeux ailleurs. Dans les routes de ses songes, ce chauffeur poids lourd aperçoit une lumière peu syndicale.
On s'engage par amour, parce qu'on aime l'autre, les autres, et qu'on ne supporte pas qu'ils soient écrasés. On s'engage pour être heureux, pour pouvoir s'aimer, ensemble. Et pour être aimé aussi, parce que ceux pour qui tu truines l'existence te le rendent. Aimer et être aimé.
Pour avoir entendu le nombre de gilets jaunes reprendre ces mêmes aspirations, ou à peu près, on est en mesure de certifier qu'il ne s'agit pas là, chez Johan, de reste mal digéré d'un catholicisme sauce de Villiers. Seulement les gilets jaunes, qui ne demandaient qu'à aimer, ont rapidement trouvé face à eux des chars de 13 tonnes positionnés sous l'Arc de Triomphe. Et Johan Jadot, qui aimait tous les Jacques Grondin et voulait en être aimé, Mehdi Kechirem, qui voulait le respect des droits pour tous, se sont retrouvés avec, d'abord, leur premier collègue syndicaliste CGT, acheté par la direction. Un syndicat CFTC maison, aussi monté par la direction, qui leur ravit la première place aux élections professionnelles. La CGT demeurant majoritaire dans le collège ouvrier, son bastion. Puis avec les salariés qui se détournent d'eux petit à petit. Les rejoindre, c'est la garantie de ne pas faire carrière dans l'entreprise. Johan et Mehdi ne se découragent pas pourtant. Jusqu'en février dernier, où la totalité des salariés ultramarins ou possédant un prénom du sud de la Méditerranée viennent les voir. Bougnoul, Bamboula, imitation de singe, retourner manger des bananes, travail d'arabe, font partie des gentillesses quotidiennes que ces sept ouvriers essuient au boulot. Les syndicalistes enquêtent minutieusement, un travail d'orfèvre. Ils rédigent 25 pages de rapport d'un niveau scientifique et lancent dans la foulée un droit d'alerte pour atteinte aux droits des personnes. En vain. La passivité de la direction est absolue, jusqu'à une réunion mouvementée en juin dernier. Pour leur comportement jugé menaçant, Johan et Mehdi sont licenciés. Entre-temps, durement éprouvés par l'affaire, les victimes du racisme ont presque toutes quitté l'entreprise. « Par amour et pour l'amour », rêvait Johan. Le 8 septembre, malgré tout, l'inspection du travail refuse leur licenciement, pointant un motif totalement injustifié et reconnaissant au passage la qualité de leur travail. Victoire. Le 10 septembre, euphorique, les deux syndicalistes sont de retour dans leur local. Une manifestation de chaleur humaine leur est alors prodiguée sous les yeux passifs de la direction. Une trentaine de salariés les encerclent, presque exclusivement des cadres, dont l'un entièrement cagoulé, crie et pancarte à la main. « Cassez-vous ! Dégagez ! Menteur ! Terreur !» Johan et Mehdi désertent rapidement les lieux. En arrêt maladie, ils ne sont toujours pas revenus dans l'entreprise.
Char soviétique en Vendée.
Résumons. Chez Steph Vendée, le racisme n'est pas combattu. Le dénoncer vaut licenciement. Les décisions administratives, comme celle de l'inspection du travail, sont piétinées. Quant aux libertés syndicales garanties par la Constitution, elles sont priées de dégager. Ça fait beaucoup. Être raciste et licencié en paix, sans syndicat ni administration. C'est inédit même. Un seul précédent historique existe dans l'actualité récente. En 2010, le local CGT de General Motors à Strasbourg est encerclé par une centaine de cadres menaçants qui séquestrent longuement les syndicalistes. Mais quelques semaines après l'assaut antisyndical de General Motors, des millions de manifestants défilaient à plusieurs reprises dans les rues contre la réforme des retraites annoncée alors par Nicolas Sarkozy. Idéologiquement, l'ambiance était à la reconquête. L'offensive antisyndicale de Steph Vendée en 2021 a lieu dans des circonstances historiques différentes. De nos jours, des tribunes signées par des milliers de militaires proposant de prendre les choses en main sont publiées et applaudies. Des policiers manifestent avec leurs ministres devant l'Assemblée nationale. Quant au racisme, il a le droit de citer quotidien sur les chaînes d'information en continu. Ou être condamné pour incitation à la haine raciale semble garantir le maintien à l'antenne. Et l'ennemi est clairement identifié. Le directeur du Point a pu tranquillement comparer dans son éditorial la CGT à Daesh, 1er juin 2016. Dans ce contexte, l'affaire vendéenne de la Steph prend toutes les dimensions, sauf celle d'un événement anecdotique. La direction vendéenne de la Steph l'a bien compris. Ce dialogue, restitué au mot près, que Loïc Le Jallet, directeur de la filiale, a eu avec Johan, montre qu'elle prend sa mission historique très au sérieux. Au fond, monsieur Jadot, ce que vous voulez, c'est un monde inégalitaire.
Ce n'est pas sérieux, monsieur Le Jallet. L'entreprise Steph Vendée, c'est 2,8 millions d'euros de résultats nets en 2018, dont 1,4 million d'euros partagés entre les actionnaires et 60 000 euros entre les 200 salariés. De quelle inégalité parlez-vous ?
Monsieur Jadot, vous savez quel est le régime qui a fait le plus de morts dans le monde ?
Non.
C'est le communisme. C'est ça le monde que vous voulez ?
Moi, je n'ai pas trop réfléchi à tout ça. Pour l'instant, le sujet, c'est l'entreprise. Mais partout où je regarde, il y a des guerres, des famines, des bombardements, des migrants, le réchauffement climatique, des ouvriers qui crèvent la dalle, et j'ai plutôt l'impression que c'est le capitalisme qui domine le monde.
Il faut remercier Monsieur Loïc Lejallet. Lui défend le monde libre. L'entreprise Steve Vendée est le dernier rempart contre les chars soviétiques qui ont depuis longtemps rentré les essarts en bocage, en Vendée, dans leur GPS. Et licencié par son directeur, Johann Jadot aura tout de même la fierté de savoir qu'il a derrière lui l'armée rouge et les aciéries de Magnitogorsk. On ironise. On ironise, mais on ne devrait pas. Loïc Lejallet mène une bataille idéologique. 35 ans après la chute du mur de Berlin, son ennemi demeure le rouge, le communiste, auquel il renvoie systématiquement toute opposition. Et depuis son poste de directeur, il mène également une bataille sociale, la liquidation de la classe ouvrière debout du syndicat CGT de son entreprise. Ce camp mène une guerre de classe avec un ennemi clairement identifié. Face à cette stratégie, assise sur des dizaines de millions d'euros, des milliers d'employés, des députés, des syndicats patronaux, des ministres, il y a les mots de Johann.
Moi, je n'ai pas trop réfléchi à tout ça. Pour l'instant, le sujet, c'est l'entreprise.
En d'autres termes, le camp d'en face est en guerre, a un projet solidement battu, et nous, nous n'aurions pas trop réfléchi. Soyons indulgents avec Johann et Mehdi. Le projet, ce n'est pas forcément à eux de le bâtir. Syndicalistes de terrain, la tête dans le guidon des actions à mener, des dossiers à remplir, des copains à défendre, ils sont les fantassins d'une armée qui compte un état-major, des généraux et des officiers. La guerre, la tactique, la stratégie, ce sont eux qui l'élaborent. Quand le terrain est dans la merde, c'est vers eux qu'il convient de se tourner. Le terrain s'est tourné vers ses camarades de l'état-major, en effet. Syndicalistes d'élite, mecs pas compliqués, fidèles, pas dogmatiques, virés comme des merdes, ayant mené un combat incontestable contre le racisme et ramassé une manifestation antisyndicale en pleine gueule. Fait historique inédit. Johann et Mehdi sont partis en quête de soutien. Ils en avaient besoin.
Tous les matins, on se réveille, on nage, avec le palpitant à bloc. On va mal.
Mais Johann et Mehdi se sont retrouvés seuls, sans soutien. Ils n'en ont obtenu aucun. Ou si peu. On peut faire 1000 hypothèses. À ce désert autour d'eux, il existe en effet 1000 causes. Mais entre toutes, il faut sans doute retenir les mots du coordonnateur CGT du groupe STEF. Fabien Médard pilote en effet le syndicat, majoritaire dans cette multinationale de 14 000 salariés. Sa parole pèse lourd, très lourd. Au lendemain de la manif antisyndicale, dont ont été victimes Johann et Mehdi, on l'interroge. Face à un tel événement historique, comment allez-vous réagir ?
Écoutez, c'est une affaire un petit peu folle. Hein. On va voir la dimension que ça va prendre.
Fabien Médard ne s'en cache même pas. Il est littéralement dépassé par cette affaire. Échafauder une réponse, une tactique, une stratégie, donner des directives, organiser la riposte ? Pas du tout. Cette affaire est dingue. On va se mettre au fond d'un canapé et regarder ce que ça va donner. Autant dire qu'avec un pareil sens des responsabilités qui rappelle à la fois Charles Tillon, Henri Krasucki et Ambroise Croizat, on a bien regardé, ça n'a rien donné. En d'autres temps, pas si lointains, des ouvriers de combat de la trempe de Johann et Mehdi auraient été faits héros nationaux par notre camp. On aurait parlé d'eux dans des meetings, dans des tracts, dans des journaux. La CGT leur aurait donné des responsabilités, ils auraient eu une vie politique aussi, sans doute. Ils seraient devenus maires, conseillers généraux, députés. Un vent de fraîcheur ouvrière aurait soufflé sur la politique nationale avec eux. Bah, au lieu de ça, voici actuellement leur journée type.
Le matin, on emmène les gosses à l'école. Ensuite, on se retrouve à côté de la gare, à La Roche-sur-Yon. On boit des cafés, on bouge jusqu'au tabac, à 5 mètres, pour acheter des clopes. On boit des cafés, à midi, on a faim, kebab, à 10 mètres, sauce algérienne. On retourne au café, et vers 15h, il y a le bus d'Elodie, la meuf de Mehdi, qui passe. On monte dedans, et on fait des tours de bus pendant 2 heures. Puis on va chercher nos mômes à l'école.
Tous deux sont le meilleur du syndicalisme de ce pays. Ils font des tours de bus. Ils passent leur journée à tourner en bus.
Faire l'inverse de ce qu'on prône.
Parlons d'Élodie, justement, et d'Audrey, la copine de Johann.
En première ligne, c'est pas nous, c'est elle.
Faut voir,
Voir ces deux filles éperdument amoureuses de leurs hommes, éperdument en soutien de leur combat, éperdument dévastées aussi par la place que celui-ci prend dans leur vie. Il a tout envahi, en effet. Les gamins, les loisirs, la vie domestique, la vie de couple.
Même si des fois on n'en peut plus, on préfère être avec des mecs qui se battent comme ça que des mecs qui ne feraient rien. On aurait honte.
Parlons de Mehdi aussi. Parler de Mehdi, de ce bloc de silence qui se cache derrière un masque de pierre pour mieux camoufler son cœur de gosse, est en soi un défi. Pourtant, petit à petit, le granit se fend. Il se fend pour Johan, pour l'admiration de ce que fait cet antiraciste ancien sarkoziste. Et
cutéreux de Vendéen.
C'est alors qu'on comprend. On comprend que des parents d'élèves, devant l'école de son fils, ont craché sur Mehdi, en plein visage, parce qu'il a un parfum d'ailleurs. Que le maire de son village condamne son fils à la marginalité, puisqu'il lui refuse, seul musulman de l'école, un repas de substitution à la cantine. Le petit Farès mange seul chez lui. Que sa belle-mère refuse de le voir, pour les mêmes raisons. Que pour faire bonne mesure, il y a le paquet raciste ramassé en pleine face à la Steph. Les frères Kouachi, c'était cousins.
C'est quoi ce travail d'arabe ?
T'es pas en Algérie, ici, hein ? À ces agressions, à cette assignation identitaire permanente, Mehdi répond par le syndicalisme. Rappelle que les frontières ne passent pas entre les peuples, mais entre le haut et le bas. Qu'il n'y a jamais eu de travailleurs émigrés, mais des travailleurs, égaux devant la charge de travail, face à des capitalistes. Dans le moment historique actuel, sa réponse est plutôt singulière. Parlons de l'incompréhension générale et totale que déclenche leur combat.
Dans notre entourage, tout le monde nous dit qu'on est cinglés, que Bougnoul, c'est pas grave, d'arrêter tout, de penser à nos gueules, de prendre un chèque. Tu finis par te demander si c'est pas toi qui as un problème.
Écoutons enfin ceux qui se sont engagés par amour et pour l'amour.
Le sport, on a arrêté. Les romans, on n'en lit plus. On bouquine le code, la jurisprudence, le Dalos. En gros, tout ce qu'on prend, on fait l'inverse. Les loisirs, on n'en a plus. L'émancipation du travail, on taffe syndicalement du matin au soir. Un monde plus fraternel, on se prend des seaux de merde sur la gueule.
Ce sont des gens que notre camp laisse tourner sur eux-mêmes en bus. Pour quel résultat ? Michael Prince fut un syndicaliste d'élite à la STEF, lui aussi, le plus grand de sa génération. Fakir en a longuement parlé du temps où il était en activité. En 2014, lassé par l'absence de soutien de son propre camp, il quitte l'entreprise et toute forme de vie syndicale. Il prend 20 kilos, un boulot à la con et passe sa vie depuis à mater des séries débiles. À l'époque, il gagnait tous ses procès, avait arraché le taux horaire le plus haut du groupe, bloqué les zones industrielles à plusieurs centaines d'énervés. Il était la bête noire de la multinationale, au point où elle le cite encore aujourd'hui comme contre-exemple à ses salariés. Le patronat a la mémoire que nous n'avons pas.
En termes d'action, ce que je faisais à l'époque ne serait plus possible aujourd'hui. Je tenais respect des compagnies de CRS qui me vouvoyaient pour me demander quand je levais les barrages, en ligne avec le préfet. Aujourd'hui, ce serait lacrymo et flashball, dans la demi-heure, et tous en garde à vue. Sans parler des soutiens que j'avais, c'était des boîtes de lutte de bon coin. Tout est fermé.
L'éclairage historique est net. Le recul organisé des droits syndicaux et le resserrement autoritaire font de Johan et Mehdi des survivants. Pour le dire plus péjorativement, des résidus d'une époque combative, celle d'une classe ouvrière organisée qui s'est désagrégée. Johan et Mehdi n'annoncent pas un monde nouveau. Ils sont un monde qui meurt. C'est précisément ce qui devrait leur valoir notre soutien unanime et empressé. Ils ont hérité de l'inverse. On peut se rassurer en pensant que partout sur le territoire, il y aura toujours déjà Grondin et des 13e mois floués. Oui, mais les Johan Jadot et Mehdi Kechirem sont rares. Et les structures pour les accueillir périclites. Mehdi le dit en peu de mots.
C'est simple. On s'est bien fait niquer. L'employeur nous a niqués. Il a fait appel de la décision de l'inspection. Et quoi qu'il en soit, à la fin, le ministre nous licenciera. Parce qu'il est main dans la main avec la STEF. En justice, on aura sans doute gain de cause. Mais ce sera dans 2 ans. Ensuite, on croyait avoir une grande famille. En fait, c'est la merde. Presque personne ne nous a soutenus. Donc, ma carte de la CGT, là, je vais la déchirer. Et je vais devoir trouver un boulot de merde, quoi qu'il arrive. Parce qu'il faut faire croûter mes mômes. Finalement, ceux qui avaient raison, c'était les gilets jaunes. Des revendications du peuple d'en bas en étant radical.
Si Johan partage ce pessimisme, il essaye de le tempérer. Il en a discuté avec Léon Landini, chez lui, il y a quelques jours. Le vieil héros de la résistance, ancien FTP Moy, au soir de sa vie, l'écoutait très attentivement.
Léon, toi qui t'es battu toute ta vie, de voir aujourd'hui la catastrophe de tous les côtés, tu le vis comment ?
C'est pas grave, mon grand.
Il faut continuer à se battre toujours. La roue finit par tourner, tu sais.
Oui, mais nous, on se bat, on nous crache dessus et tout le monde s'en fout.
N'y attache aucune importance, vous êtes les braises. À partir du moment où il y en a, on peut toujours jeter une brindille dessus. Et ça s'enflamme.
On aimerait qu'autour de nous, chacun attise la flamme du foyer de Johan et Mehdi. Un article de Pierre Souchon lu par
Aurore,
Mohamed,
André Marc,
Geoffrey,
Meymouna.
Fakir a sollicité M. Loïc Lejallet à de nombreuses reprises. Les analyses historiques du directeur de Steve Vendée sur le communisme, les inégalités, ainsi que son soutien aux manifestations antisyndicales nous intéressaient grandement. M. Lejallet a opposé un silence total à nos questions. Pourtant, nous sommes la presse du monde libre.